4h30 à Kinshasa, 6h30 à Antananarivo. Bienvenue sur RFI.
Arthur Ponchelet.
Dimanche 1er juin, bienvenue, c'est Afrique Matin qui commence. À la une, la crainte d'une nouvelle affaire Daewoo à Madagascar. Les autorités ont signé un mémorandum d'entente sur l'agriculture avec une société israélienne et certains s'inquiètent de la possible spoliation des terres sur la grande île. Une dizaine de jours après sa condamnation pour détournement de fonds publics, Augustin Matata Ponyo, porté disparu en RDC. C'est en tout cas ce que dit le parti de l'opposant. On est à Kinshasa dans un instant. L'actualité, c'est aussi le durcissement des règles pour les sites de paris en ligne au Kenya, la suite du bras de fer entre la CNPC et les autorités nigériennes et puis, point faible, trop fort, les joueurs du PSG n'ont laissé aucun espoir à l'Inter Milan. Le club de la capitale a remporté sa première Ligue des Champions, victoire 5-0 à Munich. 90 millions de dollars d'investissement pour cultiver du riz, du maïs ou encore du soja dans 4 régions de Madagascar. Un mémorandum d'entente a été signé cette semaine entre les autorités malgaches et une entreprise israélienne LR Group. Une annonce qui passe mal sur la grande île d'abord, car elle intervient en pleine guerre à Gaza, mais surtout Pauline Le Troquet, car les malgaches redoutent à nouveau le scénario d'une spoliation des terres.
L'annonce a réveillé de douloureux souvenirs et avec eux une hantise, voire des terres malgaches cédées aux étrangers. En 2008, la presse internationale révèle un accord conclu entre l'État et la société sud-coréenne Daewoo pour l'agriculture. Mark Ravalmanan, président de l'époque, est alors accusé de vouloir vendre le pays aux étrangers. La contestation du projet est menée par l'actuel chef de l'État, Andry Rajoel, alors opposant, et participera à la chute de Mark Ravalmanan quelques mois plus tard. Ce projet israélien agite aujourd'hui les mêmes craintes qu'il y a 15 ans, comme l'explique Serge Mahouve, analyste politique.
L'opinion publique s'interroge quand même sur cette histoire. Mais qu'est-ce que c'est ce double discours ? Ils ne comprennent pas que ces gens qui ont été contre le projet Daewoo sont pour aujourd'hui le projet israélien. Le seul capital qui reste à la population, c'est la terre. Donc l'accès à la terre est vraiment un sujet très délicat ici.
La secrétaire d'État en charge de la souveraineté alimentaire n'a, à ce stade, pas répondu aux sollicitations de RFI sur la nature du futur contrat. Il ne s'agit que d'un mémorandum d'entente qui n'a aucune valeur juridique, justifie Taïnav Razanamaef, et d'ajouter « Je tiens à rassurer la population, les terres resteront malgaches ». Au-delà de l'enjeu foncier, l'annonce indigne une partie de l'opinion publique à l'heure où de plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer l'offensive israélienne à Gaza. Pauline Troquet, Antananarive, RFI.
Un meeting de l'opposition en Centrafrique empêché hier à Bangui. Les membres du Bloc républicain pour la défense de la Constitution se rassemblaient pour dénoncer les conditions de vie et la mauvaise gouvernance, mais un groupe de jeunes s'y est opposé en organisant un match de foot sur le terrain où devait se tenir le meeting. Où est Augustin Matata Ponyo ? L'opposant, ancien Premier ministre et député en RDC, a été condamné le 20 mai dernier à 10 ans de travaux forcés. La Cour constitutionnelle l'a reconnu coupable de détournement de fonds publics lorsqu'il était au pouvoir. Désormais, son parti s'inquiète. Pascal Moulégois, selon ses cadres, l'opposant est porté disparu.
Matata Ponyo n'est plus joignable ni au téléphone ni à son domicile. L'ancien Premier ministre s'est trouvé le week-end dernier à Kinshasa. Franklin Tshamala, le secrétaire général de son parti politique LGD, s'est dit inquiet.
Nous avons essayé voir les lieux carcéraux où probablement il pouvait se trouver. Il n'y est pas. Nous avons résolu de lancer cette alerte pour demander au pouvoir public de nous rendre compte. Nous sommes en contact avec sa famille qui est aussi inquiète. Nous craignons le pire. Nous voulons être fixés sur sa localisation. Ça nous suffirait. Et le pouvoir public est le mieux placé pour nous dire en ce moment où il serait.
Un membre du gouvernement et un responsable sécuritaire, rejoint samedi soir par RFI, ont qualifié les responsables du parti des Matata Ponyo des plaisantins, sous-entendu que ces politiques seraient au courant que leur leader cesserait d'exfiltrer de Kinshasa clandestinement. Réponse de Franklin Tshamala.
Certains ont dit qu'il était aux États-Unis. D'autres ont même prétendu qu'il était en Belgique et d'autres en France. Un communiqué d'un haut responsable politique du pays a même prétendu qu'il était localisable au pays et qu'il serait arrêté bientôt. On a vu ces images à bord des pirogues et d'autres images dans les milieux carcéraux. Et dans tout cela, rien ne t'avait parce qu'il n'est pas trouvable.
Dans le même temps, les partis des Matata Ponyo affirment que sa fille, qui voulait se rendre aux États-Unis, a été interdite des sorties du territoire vendredi soir. Son passeport a été confisqué par les services d'immigration. Pascal Moulégois, Kinshasa. RFI.
Une nouvelle alliance pour l'opposition au Congo. 8 formations politiques dont le PSDC de Clément Mirassa et le RDD de Jean-Jacques Serge Yombi Opango l'ont annoncé. Hier, le Rassemblement des Forces du Changement, c'est le nom de cette alliance, entend se mobiliser pour l'alternance à la présidentielle prévue l'an prochain. À l'écoute de RFI, 3h35 en temps universel. Les jeux d'argent et les paris en ligne, toujours dans le viseur des autorités au Kenya. Une cinquantaine de sites ont été fermés le mois dernier et désormais il y a de nouvelles règles, notamment en matière de publicité. Correspondance à Nairobi, Alban Tiroir.
Le 29 avril déjà, les autorités avaient annoncé une suspension de 30 jours de toute publicité liée aux jeux d'argent. L'organisme en charge de leur régulation pointait la prolifération et les conséquences socio-économiques dévastatrices de ces pratiques. Il dénonçait certains promoteurs de ces jeux qui les présentent au public comme un moyen de gagner rapidement de l'argent. Les autorités s'inquiétaient tout particulièrement des conséquences sur les plus vulnérables comme les mineurs qui peuvent tomber facilement dans l'addiction. Désormais, plus de suspension mais de nouvelles règles. Chaque publicité doit être approuvée par les autorités avant diffusion et contenir des messages de prévention. Toute publicité liée aux jeux d'argent est interdite près des écoles, institutions religieuses ou lieux fréquemment visités par des enfants. Ou encore, les célébrités ou créateurs de contenu ne doivent pas être utilisés pour faire la promotion de ces jeux d'argent. Sur les réseaux sociaux, ces nouvelles mesures sont parfois saluées, mais les influenceurs, eux, s'inquiètent d'un manque à gagner important. L'association kényane des créateurs de contenu a réagi dans un communiqué et dit soutenir un encadrement des contenus des influenceurs plutôt que leur interdiction. Alban Tiroir, Nairobi, RFI.
La frontière entre le Bénin et le Niger restera fermée. Les mots du chef de la junte nigérienne hier à la télévision. Le général Tiani a accusé son voisin d'être complice de la France qui, selon lui, veut déstabiliser son pays. Il est aussi revenu sur la crise avec la CNPC, la compagnie pétrolière chinoise. La Chine et ses sociétés jouent un jeu trouble au Niger, dit-il. Des mots alors que les travailleurs chinois en poste depuis plus de 4 ans avaient jusqu'à hier pour quitter le pays, mais la situation est bloquée. Aucun technicien chinois n'est parti pour l'instant. Pour Benjamin Auger, spécialiste des questions pétrolières à l'IFRI, Pékin garde une marge de manœuvre dans les négociations.
La Chine peut attendre, la Chine a le temps. La junte n'a pas le temps. La grande différence entre la Chine et d'autres investisseurs, c'est que c'est des investissements globaux, c'est-à-dire qu'ils voient la totalité de leur coopération entre le Niger et eux, et ils peuvent se permettre d'avoir des crises, y compris des fermetures de raffineries s'il faut. L'acteur chinois dans le secteur pétrolier est actuellement irremplaçable. Donc c'est un bras de fer politique ce qui est en train de s'engager. C'est-à-dire que justement l'objectif c'est de faire en sorte que les Chinois payent davantage, fassent de nouveau des préfinancements, c'est-à-dire qu'ils donnent de l'argent avant que l'argent soit dégagé par la vente d'hydrocarbures. Et l'objectif, c'est justement que la junte, qui a des difficultés à générer de l'argent par d'autres secteurs, fasse pression sur le seul acteur qui génère de l'argent, qui est donc la CNPC et le pétrole, en les menaçant justement de fermeture, qui est le seul moyen qu'ils ont sur eux pour essayer de les faire donner davantage de moyens financiers à la junte.
Propos recueillis par Willy Diallo.
RFI.
Tout simplement trop fort, c'est un PSG injouable qui s'est imposé tout à l'heure en finale de Ligue des Champions pour la première fois. Victoire 5-0 face à l'Inter Milan, match à sens unique. Le rouleau compresseur parisien a fonctionné avec notamment un doublé et une passe décisive de Désiré Doué. Autre gros joueur de ce match, Achraf Hakimi, le Marocain qui termine une saison exceptionnelle en s'offrant même, Christophe Jousset, le premier but de la rencontre.
Il a la bouche fermée, il a les bras levés, mais comme pour s'excuser. Et pourtant, à la 12e minute, Achraf Hakimi vient de mettre le PSG sur orbite en marquant le but qui annonce le festival offensif de son équipe. Par respect pour l'Inter, l'un de ses anciens clubs, il refuse de célébrer ce but. N'empêche, avec ou sans humilité, ce but fait entrer le Marocain dans l'histoire du foot africain. Car avant lui, peu de footballeurs du continent avaient marqué en finale de la Ligue des Champions et ce sont tous de grands joueurs. Eto'o, deux fois, Madjer, Drogba, Mané et Salah, quel cercle prestigieux. La saison se termine de manière triomphale pour ce défenseur devenu aussi un phénomène offensif. Il totalise 9 buts et 14 passes décisives, toutes compétitions confondues. Buteur notamment contre Aston Villa en quart de finale, contre Arsenal en demi-finale et donc aussi en finale. Désigné le mois dernier lauréat du prix Marc-Vivien Foé, le meilleur joueur africain de Ligue 1, Achraf Hakimi peut maintenant convoiter le trophée de la CAF qui récompense le meilleur joueur africain de l'année. À 26 ans, le vice-capitaine du PSG est au sommet de sa carrière en club, en attendant la CAN au Maroc en décembre prochain.
Christophe Jousset, la joie des supporters marocains et parisiens, les scènes de liesse dans les rues de Paris et l'émotion de tout un club, on en parle toute la matinée sur RFI, édition spéciale autour de Marion Cazeneuve, tout à l'heure à partir de 6h, temps universel. On parle d'une autre victoire avant de refermer ce journal, d'une autre réussite plutôt, celle de Mongiwa Azentouli. Son nom vous est sans doute inconnu, mais cette étudiante sud-africaine de 17 ans vient d'être diplômée de l'université de Pretoria. Pourquoi on en parle? Eh bien parce qu'elle est la première diplômée de sa famille et que son histoire fait la fierté de tout un peuple, Valentin Hugues.
Le visage d'Untouli fait le tour de la toile. Merci de supprimer votre article, j'ai peur que ma mère tombe dessus, s'amuse un internaute un peu jaloux d'une telle précocité. Elle est incroyable, un merveilleux exemple. J'adore voir des filles noires réussir. Autant de messages de félicitations qui témoignent d'un profond respect pour le parcours de la jeune fille. Mongiwa Azentouli quitte le lycée à seulement 14 ans, rejoint l'université et reçoit son diplôme avant sa majorité, un diplôme en plus particulièrement difficile à obtenir en sciences actuarielles, un mélange de mathématiques et de statistiques pour évaluer les risques dans la finance. Une précocité qui n'a pas toujours été simple à gérer, mais ses fréquentations l'ont aidé, dit-elle. De nombreux anciens camarades se disent d'ailleurs très fiers d'avoir partagé les bancs de la fac à ses côtés. Une vague de bienveillance partout dans le pays qui s'ajoute à la fierté d'une famille. En plus d'être l'une des plus jeunes diplômées de son université, Ntouli est la première de sa famille à atteindre ce niveau d'études à seulement 17 ans. Valentin Hugues, Johannesburg, RFI.
Johannesburg, où il est tout juste 5h41, 3h41 en temps universel.
Afrique Matin sur RFI.
Voilà pour le journal. Restez avec nous. Dans les prochaines minutes, une start-up pour révolutionner la gestion de la production laitière et un carnet de santé numérique. Les têtes d'affiche de Denise Epoté ce matin. Notre livre international et cette question, est-ce la fin de la politique des grandes puissances? Et puis un humaniste et une certaine vision de Paris en noir et blanc. On visite une rétrospective consacrée au photographe Robert Doisneau. Mais d'abord, on part pour la Centrafrique où l'on s'intéresse à une nouvelle source d'énergie qui est peut-être la solution pour lutter contre le réchauffement climatique. Transformer des déchets biodégradables en charbon pour se chauffer ou encore cuisiner, c'est écologique, pas cher et cela permet surtout de réduire la déforestation. C'est une initiative de l'association Dynamique Dominicaine pour l'environnement et le développement durable. Rolstef Domialeux a rencontré ses membres à Bégoua, au nord de Bangui. Reportage.
Dans ce quartier populaire, les passants les observent de manière étrange. Équipés de gants, de combinaisons, de bottes et de mototricycles, Edgar Fezel Dekpali et son équipe sillonnent les marchés pour collecter les déchets biodégradables.
Nous avons des cartons, nous avons des papiers, nous avons des sciures de bois, nous avons des déchets agricoles, les coques de maïs, les coques de riz, même les rejets de charbon. Hein. Quand on dispatche les sacs, quand c'est plein, on nous appelle, on vient chercher. C'est comme ça.
De retour de la collecte qui a duré toute la matinée, ils font le tri dans cet atelier à ciel ouvert. Gants rouges aux mains, casquette sur la tête, Yves, l'un des membres de l'équipe, présente les machines artisanales qu'il a lui-même fabriquées.
Le four, juste pour allumer, avec des combustibles recyclés, quoi. Il faut les broyer pour avoir les matières adéquates, quoi. En phase finale, la presse, juste pour presser les briquettes avec des formes initiales, quoi.
Après le triage, le processus de fabrication peut enfin débuter.
C'est un processus de 4 étapes. Nous avons la partie traitement. Nous avons une partie qui consiste à faire le malaxage. Et après, nous avons le pressage. Et après, nous avons la partie séchage aussi.
L'association DDEDD a fidélisé une centaine d'utilisateurs comme Johanna Yavala. Aujourd'hui, elle prépare la feuille de manioc dans une marmite posée sur un four à charbon. Cette mère de famille a changé ses habitudes de cuisson après avoir découvert le charbon écologique.
Je peux acheter, voire 40 ou 30 briques. Je peux prendre seulement même 3 briques. Je peux préparer avec, malaxer le couscous manioc avec, chauffer l'eau après avec. Dans un mois, parfois, je peux payer soit un carton, 15 000, parfois 17 000. Bon, ça dépend. C'est vraiment moins coûteux.
Une fabrication artisanale qui vise 2 objectifs. Recycler les ordures ménagères et réduire la déforestation liée à l'utilisation des charbons de bois. Edgar Fuzel Dekpali, coordonnateur du projet.
L'important, c'est d'abord de mettre barrière à ce qu'on appelle la criminalité environnementale, le changement climatique. On a préféré se mettre en pratique pour réaliser certaines choses un peu plus efficaces.
Créée il y a 7 ans, l'association DDEDD produit environ 4 tonnes de charbon écologique par mois. Un chiffre insignifiant pour avoir un impact significatif, mais ces jeunes sont déterminés à lutter efficacement contre la dégradation de l'environnement. Rolf Estève Domerle, Bongui, RFI.
Reportage à retrouver aussi sur notre site RFI.fr.
RFI, toute l'actualité, Arthur Ponchelet.
Dimanche 1er juin, bienvenue si vous nous rejoignez à la une de l'actualité internationale. On en parlait dans le journal, le PSG remporte la Ligue des Champions. Victoire écrasante hier soir sur l'Inter Milan, 5-0. Jamais on n'avait vu un tel écart en finale de cette reine des compétitions. Le club de la capitale ramène en France un trophée que seul l'OM avait remporté jusqu'alors. C'était il y a 32 ans et ce matin les félicitations pleuvent. Le président Emmanuel Macron, la maire de Paris Anne Hidalgo, Kylian Mbappé se font de son message. Lui aussi, alors qu'il a quitté le PSG la saison dernière. Édition spéciale sur RFI, juste après le journal de 6h, temps universel. Les Polonais appelés aux urnes ce dimanche. Second tour d'une élection présidentielle au résultat imprévisible. Les derniers sondages ne départagent clairement aucun des deux candidats. Le centriste Rafał Trzaskowski et le conservateur Karol Nawrocki se battent dans un mouchoir de poche. Le résultat du scrutin sera déterminant pour le soutien que la Pologne apporte à l'Ukraine, mais aussi pour le droit à l'avortement. Et puis le Hamas fait connaître sa réponse à la proposition de trêve des États-Unis. Le mouvement palestinien propose de libérer 10 otages et de restituer les dépouilles de 18 autres en échange de la libération des prisonniers par Israël. Washington juge cette proposition inacceptable. 5h46 à Paris. Comme tous les dimanches, c'est l'heure des têtes d'affiche de Denise Epoté. Un zoom sur deux entrepreneurs ou entrepreneuses du continent aux idées innovantes. Denise Epoté est avec Nicolas Brousse.
Bonjour Denise Epoté.
Bonjour Nicolas Brousse.
Dans votre palmarès cette semaine, deux innovateurs togolais. Ils ont brillamment représenté la tech nationale lors du Jitex Africa à Marrakech au mois d'avril dernier. Développeur d'applications et consultant en innovation numérique, Parfait Toké a créé Letify, une start-up dont l'objectif est de révolutionner la gestion de la production laitière.
Au Togo, l'élevage bovin est pratiqué par environ 6% des ménages agricoles et représente une part importante pour la production de viande et de lait. Grâce à Letify, les producteurs possèdent des outils pour maximiser la qualité et la quantité de leur production tout en simplifiant les processus quotidiens. Des capteurs intelligents permettent de suivre en temps réel la santé, la production et la localisation des vaches, tout comme la gestion des stocks et des commandes. Avec l'application mobile, les producteurs scannent les lots et suivent livraison et paiement. Un tableau de bord leur donne accès à toutes les données importantes, y compris les statistiques de production et de vente. En 2024, à Niamey, Letify figurait parmi les lauréats du Pastor Hackathon, un concours qui vise à créer un écosystème d'innovation durable pour le pastoralisme en Afrique de l'Ouest, en encourageant l'adoption de technologies numériques pour renforcer la résilience des communautés pastorales face aux défis économiques, sociaux et environnementaux.
Denise, votre seconde tête d'affiche est également un passionné d'innovation, diplômé en finance d'entreprise. Kofivi Agbetiafa a créé Dokita Eyes, un carnet de santé numérique pour entre autres assurer et faciliter l'accès à des soins efficaces pour les couches défavorisées de la population.
En Afrique, seuls 23% de la population possède une assurance santé. Et malgré les annonces sur la couverture maladie universelle, des milliers de patients doivent encore parcourir de longues distances pour un simple contrôle médical. De plus, l'articulation entre assurance publique et assurance privée, qui permettrait aux populations de bénéficier des complémentaires santé, demeure un idéal lointain. Via l'application Dokita Eyes, qui ne nécessite pas de posséder un smartphone, le médecin peut avoir accès à l'historique des données du patient, des traitements prescrits et des analyses effectuées en scannant un QR code. Grâce à l'interface, le patient peut envoyer des messages ou des vidéos à son médecin pour signaler l'évolution de son état de santé. La gestion des prescriptions médicales a également été optimisée une fois numérisée. L'ordonnance est transmise aux pharmacies qui indiquent la disponibilité des médicaments et leur coût. Le patient peut régler son ordonnance via Mobile Money et se faire livrer ses médicaments. Grâce au partenariat noué avec des assurances, Cofivi Agbetiafa entend relever les défis de la faiblesse du taux de pénétration et d'attractivité des offres d'assurance maladie publique et privée sur le marché africain. La digitalisation des données permet le calcul automatique des frais à payer selon les conditions d'assurance du patient, simplifiant ainsi son parcours de soins. Ce volet est en cours de déploiement au Togo, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et au Gabon.
Les têtes d'affiche de Denise Epoté à retrouver quand vous le voulez sur RFI.fr. Et nous, Denise, on se dit à dimanche prochain.
À dimanche prochain, Nicolas Brousse. Il y a l'Amérique de Donald Trump, imprévisible et repliée sur elle-même. Il y a la Russie de Vladimir Poutine, belliqueuse et isolée. La Chine de Xi Jinping, dont l'économie ralentit. Des grandes puissances qui ne le sont donc plus vraiment. Et s'il fallait regarder le monde différemment, en s'intéressant à l'importance des petites et moyennes puissances, c'est la thèse de Nicolas Tenzer dans son dernier ouvrage « Fin de la politique des grandes puissances ». C'est notre livre international du jour sur RFI. Nicolas Tenzer répond aux questions de Jory Silberman.
Nicolas Tenzer, bonjour.
Bonjour.
Comment est-ce que vous définissez l'ordre mondial dans lequel nous vivons aujourd'hui ?
Je pense qu'aujourd'hui, le monde tel qu'il est correspond plutôt à la définition qu'en donnait l'analyste de le risque américain Ian Bremmer, c'est-à-dire qu'il est plutôt apolaire. Un monde relativement, je dirais, désordonné, de chacun pour soi, où aucune puissance ne parvient à imposer véritablement ses vues, ne parvient pas à régenter ses zones, avec un risque, malgré tout, qu'il ne tombe dans une forme d'ère multipolaire. Alors, c'est bien sûr le retour à des zones d'influence, à la domination perçue comme légitime d'États dominants sur leur zone, la Russie sur un monde flave qui n'existe pas, fantasmé, mais sur l'ancien empire tsariste soviétique, la Chine sur un monde chinois étendu, et puis derrière une zone un peu désorganisée avec les États-Unis et les autres.
Dans votre livre, vous appelez à sortir de cet ordre mondial apolaire, et de ne surtout pas tomber dans l'ordre mondial multipolaire, et surtout vous appelez à créer une nouvelle formule que vous appelez le G infini. Ce n'est pas le G7 ou le G20, mais un nouveau groupe avec un grand nombre de petites et de moyennes puissances, c'est-à-dire
G infini, c'est-à-dire qu'un renforcement des petites et des moyennes puissances, avec comme pôle d'ailleurs essentiel dans ce jeu, l'Europe. L'Europe, à mon avis, a vocation à s'allier avec d'autres nations moyennes et petites démocratiques. Alors, en Asie, avec Japon, Corée du Sud, Taïwan, Australie, Nouvelle-Zélande. En Afrique, probablement avec un certain nombre d'États aussi qui sont quand même plus ou moins aujourd'hui démocratiques, le Kenya, peut-être la Tanzanie, malgré tous les problèmes que connaissent ces pays, quelques autres aussi, le Ghana par exemple, et puis quelques autres pays également, même d'Asie centrale, qui ne sont pas totalement démocratiques, mais qui cherchent à s'émanciper de cette double tutelle russo-chinoise. Donc je vois plutôt une organisation dans ce sens-là, qui à mon avis est possible parce que vous avez ces jeux de réaction des États. Maintenant, il reste à en faire une stratégie et à l'organiser. C'est-à-dire que je ne crois pas du tout que les ordres internationaux, entre guillemets, pour autant que le concept soit valide, s'organisent spontanément. Il va falloir que nous ayons, de notre côté, nous Européens, une vision pour les organiser.
Et vous prenez un exemple de groupe de petits et moyens États qui ont acquis une importance nouvelle. C'est ce que vous appelez l'axe de la résistance des petits et moyens États européens face à l'invasion russe. Quelle est sa portée politique en Europe ?
Alors, d'abord, quand on regarde ce qu'on fait et ce qu'on dit, ces moyens États, alors d'Europe du Nord, mais aussi bien sûr d'Europe centrale et orientale, eh bien, elles se caractérisent par d'abord une lucidité très ancienne sur le danger russe et d'ailleurs pour partie aussi sur le danger chinois. Je pense à la Lituanie qui a décidé clairement de prendre le fait et cause pour Taïwan plutôt que pour Pékin et qui ont instruit l'Europe. Et d'ailleurs, c'était assez frappant d'entendre le président de la République française, Emmanuel Macron, à Bratislava, le 31 mai 2023, faire un discours où il disait « Mais finalement, nous ne vous avons pas assez écouté. » Et aujourd'hui, c'est d'ailleurs cette ligne qui, sur le plan politique, est dominante en Europe. Ce n'est pas la ligne traditionnelle de la France, de l'Allemagne, qui domine. C'est bien la ligne de ces petits et moyens États. Deuxièmement, on voit ces États aujourd'hui, alors je pense bien sûr, je dirais aux pays baltes, mais aussi à la Norvège, hors Union européenne, au Danemark, etc., être en pointe dans le soutien à l'Ukraine. C'est-à-dire que leur contribution par rapport à leur PIB en termes de livraison d'armes à l'Ukraine est nettement supérieure à ce que fait notamment la France, mais aussi bien sûr l'Italie, l'Espagne et quelques autres. Donc, ils montrent effectivement, ils sont tout à fait, je pense, exemplaires sur cette ligne-là. Et aujourd'hui, on voit par exemple que vous avez une sorte de, ce qu'on appelle le caucus, qui est l'alliance entre les pays baltiques et les pays d'Europe du Nord, qui aujourd'hui a un rôle absolument moteur pour forger des conceptions de politique étrangère en Europe.
Nicolas Tenzer, merci beaucoup.
Merci à vous.
Nicolas Tenzer avec Joris Zilberman, fin de la politique des grandes puissances est donc disponible aux éditions de l'Observatoire. Bientôt 4 heures en temps universel. Avant de retrouver Guillaume Ouattara pour le journal, on fait un détour par Paris, où l'on visite une exposition consacrée à un géant de la photo, Robert Doisneau. Le musée Mayol expose 400 clichés dans une expo réalisée en collaboration avec ses deux filles. C'est notre reportage culture du jour, signé Nour Marzougui.
Deux amoureux s'embrassent devant une terrasse de café à deux pas de l'hôtel de ville de Paris. C'est probablement cette photo qui vous vient en tête lorsque vous entendez le nom de Robert Doisneau, l'un des photographes les plus emblématiques du XXe siècle et du courant humaniste. Pendant plus de 50 ans, Doisneau a arpenté les rues de Paris comme celui qu'il aimait décrire comme le patient passant, celui qui attend des heures pour immortaliser ses instants de vie qui laissent les autres indifférents, jusqu'à ce que son appareil photo les rende éternels.
Le photographe comme moi a essayé d'arrêter le temps. C'est un pari complètement fou, parce que c'est finalement le temps qui, un beau jour, me dira à moi, ne bougeons plus, c'est lui qui aura gagné.
Francine de Roudil, l'une des deux filles de Doisneau, est aujourd'hui l'une des commissaires de cette exposition.
On a voulu montrer toute une séquence qui s'appelle Gravité, où on voit les photos des gens à qui la vie n'a pas fait de cadeau, que ce soit les prostituées des Halles, que ce soit les mineurs à Lens qui vivent dans des conditions épouvantables. Bah, il a des photos qui peuvent être très très dures, mais le regard qu'il porte sur les gens n'est jamais dur.
C'est ce que l'on ressent en se baladant dans les allées du musée Mayol, où l'exposition est présentée. Une exposition de plus de 400 photos, où l'on découvre Paris à travers les yeux de Doisneau. En noir et blanc, la plupart du temps, des enfants qui jouent dans les rues, des amoureux qui dansent un soir de 14 juillet, mais aussi les banlieues parisiennes.
Les gens de la banlieue, peut-être parce que le décor sert de repoussoir, mais je les trouve très très attendrissants. La jeunesse en banlieue prend une valeur, un caractère.
Des banlieues dans lesquelles il aimait passer son temps libre, il fut d'ailleurs l'un des premiers à les photographier.
Alors maintenant, c'est très photographié. Au moment où il le faisait, pas du tout. Tous les objectifs s'étaient détournés de cette photographie sociale. Donc, bien sûr, ce qu'il va montrer, c'est des photographies qui vont pouvoir étayer un propos de révolte sociale.
Doisneau, c'est une histoire de rencontres et de récits de vie. Lorsqu'il rentrait chaque soir, ses filles se souviennent qu'il aimait leur raconter ses aventures parisiennes. Des histoires qui toutes se rejoignent en un point, un regard profondément bienveillant.
Je pense que en ce moment où la période est rude et violente, où les rapports des gens sont violents, il aurait été content de représenter la liberté, la fraternité, l'égalité. C'est pas un homme qui transmettait un message, mais il y a quand même un message de paix là-dedans. Hein.
La désobéissance, c'est la lutte contre l'autorité. Quand des gens représentant la force publique, l'autorité, vous disent « circuler, il n'y a rien à voir », là, il faut impérativement s'arrêter et regarder. C'est là qu'il se passe des choses.
C'est avec Instant Donné, cette rétrospective consacrée à Robert Doisneau, que se referme cette demi-heure d'actualité. Merci à Thierry Le Saint et Edouard Dupénoit aux manettes ce matin. Un coup d'œil à notre direct sur notre chaîne YouTube. Vous êtes nombreux ce matin à vous réjouir et à féliciter la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Eh bien, restez avec nous. On revient sur cette finale historique hier à Munich, dans tout juste une minute, avec un nouveau journal. Très bon réveil à l'écoute de RFI.
L'atelier des médias, Steven Jambeau.
Âgé de 27 ans, Gaspard G se présente comme créateur de contenu d'information. Sur YouTube, plus d'1,3 million d'abonnés suivent ses vidéos de reportages, d'enquêtes et ses portraits de grandes personnalités de ce monde. Gaspard G me raconte son approche et son positionnement dans l'écosystème informationnel. L'atelier des médias, c'est tout à l'heure à 11h10 TU sur RFI et dès maintenant en podcast.
Le goût du monde. Clémence de Navi.
L'entendez-vous, la petite cuisine silencieuse qui s'opère à notre insu? Pas un bruit et pourtant, pas un instant ne se passe sans qu'il y ait transformation. La vie partout et même en nous. Cette magie, c'est la fermentation. Foncièrement réjouissante, libre, enivrante, une histoire de petits pas ou de rébellion, tout à l'heure à 11h30 en temps universel.
Le goût du monde. Clémence de Navi sur RFI.